Je suis très privilégié d'avoir été invité ici ce matin encore par votre pasteur. Je suis très heureux de la relation croissante notre église et la vôtre et votre association des églises. Nous prions, j'ai dit hier, nous prions avec pour vos églises régulièrement. Et nous sommes beaucoup encouragés de voir ce que le Seigneur fait ici au Québec. Ce week-end a été une source de joie pour moi et dans la communion des saints et la foi avec vos pasteurs et avec vous tous. Je vous invite tous à venir rendre une visite à Toronto si vous êtes dans le quartier. Alors, je veux encore une chose. Je suis redevable au pasteur Longchamp, particulièrement ce week-end, pour son aider avec mon pauvre français. Je vous demande encore une fois d'être patient avec ma faible capacité d'expression dans la langue française. Et j'ai pris que le Seigneur, malgré mes maladresses, m'utilisera comme un canal de bénédiction pour vous tous ce matin. Nous allons examiner ensemble ce matin le psaume 73. Psaume 73. J'ai intitulé mon sermon ce matin « Maintenir une vision chrétienne du monde dans un monde hostile ». Mais on lit le psaume au commencement. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Car à moi, pour un peu, mes pieds allant fléchir. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent. Car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Rien ne le tourmente jusqu'à leur mort, et leur cœur est très plat. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes, ils ne sont pas frappés avec les humains. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppent. Leur figure est débordante de graisse, les imaginations de leur cœur dépassant la mesure. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent haut. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple en arrive là. On avale l'eau abondamment. Et on dit, comment Dieu le connaît-il? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tout le jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux m'exprimer comme eux, voici que je trahirai la race et de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai compris le sort final des méchants. Ouais, tu les places sur des voies glissantes. Tu les précipitais dans la tourmentée. Comment, en un instant, les voilà en pleine désolation. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil. Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'agissait et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu m'as conduit par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Amen. Alors, dans la matinée de le 1er mai 1943, lors de la deuxième guerre mondiale, une pêcheur, et je fais comme ça, mon prononciation en ce moment, espagnole, a découvert un cadavre gorgé d'eau sur une plage en Espagne qui avait échoué sur la rivage pendant la nuit. Le mort était vêtu d'un uniforme militaire britannique et d'un gilet de sauvetage. Il avait une mallette enchaînée à son corps, sans vie. Comme le soldat semblait être une victime d'un accident d'avion en mer, le corps a été transporté vers le port local et où sa découverte a été signalée aux fonctionnaires nazis stationnés dans la ville de Huelva en Espagne. Vous savez probablement que l'Espagne était techniquement un pays neutre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, ce n'était pas un secret pour personne que l'Espagne était sympathique à la cause nazie. Les fonctionnaires espagnols informeront le service de renseignement militaire allemand de leur découverte. Le cadavre avait été identifié comme étant le major William Martin des Royal Marines britanniques. Les Allemands ont réussi à photographier secrètement et d'examiner tous les documents avant de retourner rapidement le corps aux Espagnols. Les Allemands enverront rapidement les documents photographiques à leur service d'intelligence militaire de Berlin sur analyser. Les services de renseignement militaire allemand concluant qu'il était authentique. C'était des documents confidentiels que le major Martin portait au gouvernement espagnol. Le contenu informait les nazis que les AI projettent d'attaquer l'Europe en passant par la Grèce. Hitler lui-même a ordonné que des divisions blindées et les divisions de l'armée de la Grèce soient prêtes à recevoir l'attaque alliée. Bien sûr, l'attaque alliée en Grèce ne vient jamais, parce que le Major Martin n'a jamais existé. Il n'y avait pas de Major Martin dans la marine britannique. Au lieu de cela, le cadavre d'un homme qui était mort de cause naturelle avait été habillé dans un uniforme anglais par le renseignement militaire britannique et abandonné au large des côtes de l'Espagne avec des faux documents destinés à tromper les Allemands. La déception a été appelée en anglais « Operation Mincemeat ». J'ai essayé traduction « Opération viande hachée ». C'était un peu drôle. Aucun détail n'avait été laissé de côté dans les préparations de cette tromperie. En plus des documents militaires, le major Martin portait des lettres de sa fiancée Pam, ainsi que des talents de billets à un théâtre à Londres. La supercherie avait été conçue pour être absolument crédible. Toutes ces informations ont aidé à tromper les Allemandes, en leur faisant croire que les documents du Major Martin étaient authentiques. Les Allemands pensaient qu'ils comprenaient ce qui se passe dans le monde, mais ils ont été incroyablement trompés. La vérité, comme l'histoire l'a révélé plus tard, et que pas un seul espion allemand en Angleterre durant la guerre n'était de véritable espion. Tous les espions allemands en Angleterre ont été capturés et transformés en agents doubles qui ont été contrôlés par l'autre commandement allié qui avait fabriqué de faux rapports dans le but de tromper Berlin. Les Allemands étaient dans une situation désavantageuse. Ils ne connaissaient pas l'ensemble de la situation, même s'ils ont pensé qu'ils en faisaient. Ces graves erreurs ont contribué à leur défaite. Les Alliés étaient en mesure de les induire une erreur, et à tel point que les Allemands étaient mal préparés à la fois pour l'invasion de la Sicile, premièrement en septembre 1943, ainsi que l'invasion de la Normandie D-Day en juin 1944. Mais quoi? Dans notre société moderne, il est facile pour nous d'être tout aussi trompés parce que nous ne comprenons pas l'ensemble de la situation quand nous regardons le monde autour de nous. Nous pensons que nous savons comment le monde fonctionnait. Il était facile de devenir déprimé au sujet de la façon dont les gens méchants semblent être les plus puissants, influents et insouciants pendant que nous luttons pour passer à travers nos vies et élever nos familles. Comment pouvons-nous atteindre éventuellement ce monde avec l'Évangile et avoir un impact? Partout où nous regardons, nous voyons le péché triompher. Nous voyons des gens méchants sortir pour assassiner. Nous voyons des politiciens influents et des gens d'affaires mentir, tricher et voler. Oui, certains se font prendre, mais la plupart semblent s'en sortir. Combien de fois les gens trichant sur leurs impôts ou les entrepreneurs nous offrant une transaction payée sur la table pour éviter leur obligation légale de déclarer leurs gains véritables. Nous voyons les maris trichant leurs femmes et les femmes tricher leurs maris. Les menteurs et tricheurs obtenir les emplois et l'argent pendant que les gens qui paient leurs impôts et qui respectent les lois se voient désavantagés pour leur honnêteté. La tentation pour les chrétiens comme moi et toi est de penser que si vous ne pouvez pas les battre, pourquoi ne pas se joindre à eux dans leur péché? Le christianisme n'est-il pas simplement une barrière pour nous empêcher de satisfaire nos plaisirs terrestres? Si nous adoptons totalement la philosophie athée et matérialiste, cette mentalité peut avoir du sens. Mais le fait est que si nous vivons notre vie en se basant uniquement sur ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous sentons, ce que nous goûtons, ce que nous touchons, nous avons alors un portrait très incomplet du monde. La perspective du monde sans Dieu, c'est une perspective tout à fait fausse. Ce monde n'est pas exclusivement d'une nature physique. Il était aussi un monde spirituel. Dieu a créé supernaturellement le monde et le soutien. La vraie vie se prolonge bien au-delà du monde physique. Et ce monde est soumis qu'il est le vieux et non à la puissance et la loi morale de Dieu. Dieu est présent et actif, et tous les hommes devront lui rendre des comptes. Ce que se déclare la Sainte Bible dans Hébreux 9, 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» Le psaume devant nous ce matin nous avertit du danger de vivre la vie juste dans l'instant présent. Il nous met une garde contre les très grands dangers de vivre uniquement en fonction de la satisfaction de nos sens. Nous sommes tous en danger d'être trompés, comme les nantis. Cette pensée boiteuse peut conduire à des jugements basés uniquement sur des apparences et nous conduire à la défaite, à la destruction ultime de notre vie et de notre âme. Nous sommes tentés d'envier à ceux qui périssent et imiter la vie pécheresse que ce monde a à nous offrir, tout simplement parce que nous ne croyons pas ce que la Bible enseigne sur la destinée éternelle. Comme Esau, nous abandonnons tout notre droit d'aînesse pour un boule de ragoût qui était rapidement consumé et donne des fruits amers et extrêmement dangereux. Le psaume 73 est un psaume très important pour nous aider à adopter une perspective éternelle de la vie et préciser notre mission dans ce monde, contemporain à la fois comme une église locale et comme individuel et individu. C'est un psaume très réaliste qui décrit la lutte d'un croyant qui voit que le mal prospérait autour de lui et semble triompher. La Bible ne cache pas les luttes dans la vie. Elle les aborde du front et nous fournit une aide pratique pour nos besoins spirituels. Ceci est une psaume à mémoriser et à méditer. Très souvent, c'est un de mon favoris. Il est bon de la relire constamment parce qu'il nous aide à avoir la grande image ou l'image complète de la vie dans ses aspects à la fois physiques et spirituels. Il nous aidera à supporter la difficulté de la vie lorsque nous voyons des gens méchants prospèrent tandis que nous faisons face à nos nombreuses difficultés. Il nous aide à mieux comprendre les dangers et l'aveuglement de notre propre péché et les idoles de mon cœur. Il permet d'exposer notre besoin d'adorer Dieu et de maximiser notre participation au témoignage du corps du Christ sur cette terre. Il fournit un aperçu complet de la situation et réoriente nos cœurs et nous donne le bon conseil, fixer nos yeux sur le Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous allons examiner ce psaume sous trois angles ce matin. Le premier, c'était l'aveuglement de l'envie du pécheur. Deuxièmement, le point tournant du psalmiste dans son observation. Et troisièmement, la véritable vision restaurée. Alors, premièrement, l'aveuglement de l'envie de pécher. Ce que nous voyons dans ce psaume de Asaph, l'un des musiciens au temple, frère de Hémen, exprimant sa propre lutte personnelle avec le péché autour de lui. Asaph voit que les méchants prospèrent, tandis que de nombreuses personnes apparemment bonnes et innocentes souffrent. Cette complainte du psaume 73, le livre de Job et le livre de Jérémie reprennent tout à tour ces questions angoissées et à savoir pourquoi Dieu semble permettre le mal, la souffrance et l'injustice. Ils savent ici se battre avec des sérieux doutes et exprime sa colère sur les voies du monde. La Bible ne nous présente pas la vie comme étant facile. La Bible est très réaliste. Elle ne promet pas que la vie sur cette terre soit un jardin de roses et juste. Comment pouvons-nous dissiper notre confusion, nos doutes et nos colères? Nous devons comprendre que d'éprouver une certaine confusion et une certaine perplexité face aux difficultés de la vie ne constitue pas en soi un péché. Tout est dans la manière dont nous abordons ces difficultés. Eh bien, la première chose que nous devons comprendre est ce que ce psaume a été écrit après qu'Asaph eut connu la victoire quant à ses doutes. La clé de tout le psaume se trouve dans le premier verset. Oui, Dieu est bon à Israël pour ceux qui ont le cœur pur. Il y a deux concepts importants qui sont importants pour notre compréhension dans ce verset. Le verset 1 ne raconte pas seulement ce que Dieu peut faire pour nous, mais de ce que Dieu peut être pour nous. La conclusion fondamentale de cette somme est que malgré ce que nous pourrions penser au départ, Dieu est bon. Ce que nous voyons dans le reste du psaume est la façon dont Dieu a révélé sa bonté à Asaph. Le deuxième concept ici, c'était l'expression « cœur pur ». Ceci communiquait que le portrait d'ensemble de Dieu ne se limite aux circonstances terrestres et temporelles que nous connaissons. Son plus grand désir est de nous donner la bonne attitude de cœur face à ces circonstances. Notre réaction aux circonstances révèle ce qui se passe dans nos cœurs. En d'autres termes, lorsque nous sommes pressés par les difficultés de la vie, comment réagissons-nous? Il est inévitable que notre véritable état spirituel soit clairement révélé lorsque nous serons sous la pression douloureusement des circonstances difficiles. Et comme vous, moi, nous tous les face des circonstances difficiles, n'est-ce pas? Le régime alimentaire des jeunes enfants peut être intéressant. Je suis le père de quatre enfants et je peux vous dire, ils mangent sans discrimination. S'ils ont faim, ils mangent tout ce qui est disponible. Je dois avouer qu'ils ne savent pas tout ce qu'ils mangent. Ma plus jeune fille, Abigail, quand elle était enfants, manger parfois des choses que nous avions mises dans nos ordures et qu'elles profitaient de nos distractions pour en ingurgiter. Donc, vous pourriez demander, comment avons-nous pu savoir ce qu'elle faisait? C'est tout simplement quand nous avons changé sa couchette. C'est vrai. À une occasion, nous avons découvert une substance mystérieuse, blanche et pâteuse dans sa couche. Nous avons deviné qu'elle avait mangé les craies de sa sœur sur la trottoir. Mais, c'est rare, n'est-ce pas? Qu'est-ce que votre alimentation spirituelle révèle sur vous? Révèle-t-elle la pureté ou la contamination? Pourquoi vous plaignez-vous à propre de votre situation si vous n'êtes pas la poursuite d'une bonne alimentation spirituelle? Esaf ici montre sa propre lutte dans versets 2 et 3. Il dit, « Quand à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir, il s'en est fallu dans rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. » Au verset 2, il avoue ouvertement qu'il a eu le mauvais focus. Et au verset 3, constate qu'il envie les méchants. Pourquoi? La raison principale qu'il vit en voyant exclusivement le monde terrestre et temporel. Il vit dans l'instant présent. Et ceci, la façon dont la monde vit. J'ai eu une conversation avec quelqu'un qui n'y a pas très longtemps, et il se décrivent exactement en ce terme. Il ne voit aucune raison de vivre autrement, tristement. Esaf ici commis l'erreur fondamentale. Et c'était instructif, n'est-ce pas? Les anciens ont fait des erreurs et des péchés. Il a perdu sa perspective spirituelle et il commence à mettre l'accent sur les choses créées plutôt que sur le Créateur lui-même. Esaf est aveuglé et ne voit pas que la prospérité des méchants ont des conséquences, il pense bonnes pour lui. En verset 4, leur corps est chargé d'embonpoint. En verset 5, leur liberté de choix c'était sans difficulté et sans limite. En verset 6, leur fierté et leur arrogance, leur abus de pouvoir sur les autres, il était overwhelmed, je sais pas, submergé, ouais. Et il regarde, il est fâché. Verset 7, leur vie centre sur eux-mêmes. Il dit, le figure est débordant de grâce, les imaginations de leur cœur dépassant la mesure. Leur langue tranchant, leur attitude hautaine et méprisante, et leur ventre disent. Ça, c'est en verset 8 et verset 9. La popularité, ils sont méchants, mais ils sont très populaires. Voilà pourquoi son peuple en arrive là. On avale l'eau abondamment. Leur ignorance volontaire de Dieu et leur moquerie de Dieu étaient ici en verset 11. Et on dit, comment Dieu le connaîtrait-il? Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? Et on a la conclusion en verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles, ils accroissant leur richesse. Mais on réfléchit un peu. Toutes ces choses qu'il est identifié dans ces versets, il se concentre sur les circonstances de la vie et non pas sur la vérité du Créateur de sa vie, de la vie. Ceci est l'erreur fondamentale de l'incroyant. Voilà pourquoi la colère de Dieu est contre l'homme, comme mon frère a lire avant, du Romains chapitre 1, versets 25 et 26. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui était béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions enflammées, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Le raisonnement pécheur d'Asaph conduit à des résultats spirituels désastreux dans son cœur. Regarde, au verset 3, on voit « Il a de l'envie, car je jalousais ». En verset 14, il a le découragement en le manque d'obéissance. Tout le jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est lent. Au verset 16, la confusion. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux. Et au verset 21 et 22, la colère. J'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. En Matthieu 6, 19, 21, en le Nouveau Testament, il dit, Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs perçant et dérobant. Mais amassez des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne perçant ni ne dérobant. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, où en êtes-vous dans votre vie ce matin? Quel est votre objectif? Est-il de la richesse matérielle ou est-il sur Jésus-Christ? Quel genre de résultat spirituel observez-vous dans votre cœur, dans votre vie? Comment réassignez-vous quand quelqu'un d'autre connaît un succès matériel? Ça revient là. Vous rejouissez-vous vraiment de leur réussite ou réagissez-vous de façon envieuse et égoïste? Verset 13. Les profondeurs de l'égoïsme pathétique, l'adoration divine et la pureté ne sont pas valorisées. Qu'est-ce que je retire de cette vie? Vivre sentiment et coûteux et exigeant, nous devons marcher dans la droiture et l'honnêteté et consacrer du temps au Seigneur. Comment ces choses raisonnement-elles en vue? Avez-vous la pleine conviction que vous avez fait le bon choix, soit celui de vivre une vie sainte et pure? Mais cela le choque également et le met hors de lui-même. Asaph commence à se rendre compte qu'il était en train de devenir ce qu'il critique de ce monde. Il commence à voir son propre cœur égoïste, mais il ne comprend toujours pas. Mais le choc de versets 13 et 14 l'aide à prendre le virage nécessaire. Les versets 15 et 16 indiquent comme il ne peut plus prendre le virage de façon correcte. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahis les traces de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, La difficulté fut grande à mes yeux.
Il commence à penser à des autres.
Il se rend compte qu'il ne doit pas conduire les autres en erreur.
Il est ancien.
Vos enfants. Il se souvient qu'il a des responsabilités familiales. Il ne veut pas les faire glisser. Et il réalise alors son leadership. Il se souvient qu'il a été adopté dans une famille et il ne veut pas être une pierre d'achoppement. Voilà pourquoi les pasteurs et les anciens doivent avoir de la communion fraternelle, car leurs charges sont lourdes. Nous avons besoin de vos prières et nous avons besoin d'occasion d'aller souvent à Dieu pour de la direction et de la lumière. Alors, on arrive à la verset 17. Ça, c'est deuxièmement nos points tournants. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Une des choses que nous pouvons constater sur le sport de nos jours, c'est que je n'ai pas la patience ou le temps de regarder la plupart des jeux. Donc, je profite des résumés qui viennent après le match. Sur le canal en anglais TSN, The Sports Network, je pense que c'est comme RDS ici, en Québec, ils ont utilisé pour mettre fin à leur diffusion d'un événement sportif qui est nommé TSN, le TSN Turning Point, ou le point tournant de jeu. Ce fut le moment crucial dans le jeu qui a donné la victoire pour l'équipe gagnante. Le verset 17 est ce point tournant dans la psaume d'Asaf. Deux choses ils produisent. Asaf entre en adoration. Et deux, Asaf se souvient de la nature temporaire des choses créées et de la nature éternelle de Dieu. Cette observation est essentielle parce que nous voyons que notre temps de culte est un moyen de grâce donné par Dieu. Parfois, nous choisissons de ne pas prier, de ne pas assister à nos soirs de prière, ou parfois nous éprouvons des difficultés à rendre notre adoration à Dieu dans nos cultes de famille, de couple ou de l'Église. Nous connaissons nos devoirs, mais nous faisons les mauvais choix. Voilà quand il est si important de ne pas négliger nos assemblées. L'écrieur de Hébreux a dit à Hébreux 10, 25 et 26, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-unes, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approche le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Maintenant, permettez-moi de dire ceci. Cela est un moyen essentiel de la grâce, l'adoration de Dieu. Pourquoi voudrions-nous négliger? Pourquoi? Voyez-vous comment le culte était essentiel et vital pour le psalmiste? Il sort de son impasse pour la culte rendue à Dieu, pas à la maison devant son poste de télévision. Il choisit intelligemment de se joindre au corps local de Christ. Voici comment nous devons adorer et prier ensemble, collectivement, parce que c'est le dessein de Dieu pour notre bien. C'est dans le culte que ça réalise la vérité. La location, c'est très important. C'est dans la culte qu'il réalise la vérité. Ce n'est pas lui qui est sur une pente glissante.
La vérité, c'est l'incroyant
qui est sur une pente glissante. Verset 18. Oui, tu te places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine.
Et ça, cela rappelle le Deutéronome, Deutéronome 32-35, où il dit « À moi, la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancelera, car le jour de leur malheur est proche, et ceux qui les entendent ne tarderont pas. » Leur pied chancelera.
Ils voient, Asaph voit que le monde temporel est comme un rêve. Verset 20. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, te repousse leur image. Vous savez comment les rêves peuvent parfois paraître réels. Vous connaissez probablement ce que c'est fait de se réveiller dans un rêve et de ne pas savoir s'il est vrai ou non. J'ai l'expérience. Mais ce n'est pas lui qui se réveille ici. C'est le Seigneur qui va agir. Et quand il le fait, il méprise les méchants.
Ne nous rappelons-nous pas le calme de Jésus dans la tempête?
Il rapproche à ses disciples d'avoir peur dans la barque.
Et en Marc 4, 40, Jésus dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? »
Dieu a prévu la délivrance pour nos péchés. Il nous a donné Jésus-Christ et il agira. Injustice. Le monde est une vapeur temporairement et il faut qu'on en fasse face à ce fait. Jacques 4, 14 dit Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Voilà pourquoi nous devons être fidèles à tous nos cultes. Cela a pour effet de mettre ces choses en perspective. Nous ne sommes pas vision pas exclusivement dans un monde temporel et terrestre. Nous vivons dans un monde qui était à la fois matériel et spirituel. Les cultes nous aident à voir le côté divin des choses grâces à sa précieuse parole.
Alors, on avance. On a vu le point en tournant. Maintenant, treizièmement, la véritable vision restaurée.
Maintenant que nous avons vu l'aveuglement dans l'envie de pécher et des pécheurs, nous avons vu le point tournant. Et maintenant, nous verrons en troisième lieu la vision d'Asaph restaurée. Asaph gagne deux choses dans sa vision restaurée comme nous le faisons dans le culte. Perspective sur son soi et de la perspective de Dieu. Verset 21 à 24 donne une nouvelle perspective sur nous-mêmes. Il dit, « Lorsque mon cœur s'agisserait et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Tout à coup, il voit comment il était stupide. Il voit comment Dieu a été patient et courtois avec lui. Notez la parallèle ici dans verset 22 où il établit la distinction entre l'homme et la bête. C'était important. La différence entre nous
et les animaux et la capacité de la pensée spirituelle. Nous avons été créés à l'image de Dieu et nous avons donc la capacité de comprendre et de réfléchir sur son caractère. C'est notre point de connexion. Comme chrétien, comme infidèle, Dieu nous a donné une loi morale. C'est notre responsabilité de partager l'évangile avec eux. Ça, c'est la fondation. Nous ne sommes pas les bêtes, nous sommes les humains créés dans l'image de Dieu. Le verset 23 nous dit, « Cependant, oh, cependant, j'aime le mot « cependant, but » en anglais, « but, nevertheless », c'est l'un des plus beaux mots dans toute l'assemblée et dans la Bible. Dieu a soutenu Esaü. Et voici que celui-ci commence à apprécier l'amour de Dieu. Il nous humilie en nous vidant de notre égocentrisme. Il nous soutient. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes et la haine de soi. Il nous accepte. Il nous guide dans son conseil et nous reçoit dans la croix. Alors, une nouvelle perspective sur soi-même. Et après, dans les derniers versets, Esaü gagne une nouvelle perspective sur Dieu. En versets 25 à 28, il dit, « Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon portage. » Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssant, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes des œuvres. Cela conduit Esaü à un retour à Dieu. Quel autre au ciel ai-je que toi? Que pouvais-je demander de plus? Que vouloir de plus? Jésus-Christ. La richesse d'Esaü, c'est Dieu. Voilà son bien le plus précieux et important, et non pas la richesse temporaire des relations humaines et des biens de ce monde. Mes enfants ont découvert l'argent. et ils ont découvert que l'argent, ce n'est pas une chose qui était abondante. Alors, il s'agit de faire des choses pour gagner de l'argent. Il a vendu de lemonade. Lemonade. Et $5, papa. Et il est sur la richesse et il est très inquiété avec l'argent parce qu'il veut plus. Et je le dis, nous sommes la plus riche famille en Canada, en Amérique. Et les enfants, c'est quoi? Nous avons le roi, nous avons Jésus. C'était important. C'est pas juste pour les enfants, c'est pour nous. Nous devons réfléchir sur soi. Il y a une évangéliste en Grande-Bretagne qui était appelée Billy Bray. Je n'ai pas peut-être entendu de lui. Mais Billy Bray était un homme de joie. Et toutes les fois, il marche des longues distances et il chante « Je suis le fils de roi ». Et il était très pauvre, mais il a le sens de grande richesse. Et nous avons cette richesse. Nous devons réfléchir comme Esaph sur sa richesse. Nous commençons à sentir que la valeur, la beauté et la satisfaction ne se trouvent qu'en Dieu seul. Il est nos richesses. Nous commençons à valoriser Jésus. Comment il a fait calmer la tempête de votre vie et en se sacrifiant sur la croix pour nos péchés. La conclusion qui vient à la fin du psaume dans verset 28 est-elle votre conclusion aussi? Pour moi, ma projeté de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. La conclusion est comme on trouve au psaume 84, versets 11 à 13. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et l'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Puissiez-vous même vous mettre votre confiance dans le Seigneur. Que ce soit pour la première fois ou la centième fois, il est celui qui bâtit son Église. Il sera glorifié. Le mal est vaincu et le diable sera jeté en bas. Nous avons besoin de ces rappels et nous avons besoin de ces encouragements de l'Écriture. Il peut sauver les membres de nos familles que nous, personnes, pensons parfois que les chances de salut sont minces. Il peut briser les barrières et guérir les familles. Il peut remplir cette Église avec de nouveaux croyants. Parce que lui seul est Dieu. Amen. Amen. En prions. Merci Père pour ce temps d'adoration et d'examen des saintes écritures ensemble. Puissiez-vous imprimer ces vérités dans nos cœurs de façon permanente. Aidez-nous à voir le portrait complet de notre monde tel qu'il est vraiment. Nous savons que tu es fermement assis sur ton trône et que tu travailles souverainement à l'accomplissement de ton plan gracieux et du salut. Aide-nous à te faire confiance et aide-nous à compter sur toi et non à regarder nos circonstances. Aide-nous à garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. En son nom, nous prions. Amen.
C'est vraiment le chant.